Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
C'était une matinée de travail ordinaire dans les locaux de Radio Campus Orléans et de la Rédac Pop. Les bénévoles vont et viennent, les coups de téléphone s'enchaînent. Parfois, des inconnus franchissent notre porte pour demander des renseignements sur la radio, le bénévolat. D'autres, plus rares, ont tout simplement envie de parler de choses qui les touchent. C'était le cas pour cette jeune femme, à la mi-mai, quelques semaines avant les élections européennes ayant abouti à la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette étudiante en licence 1, que nous appellerons Selma pour préserver son identité, veut témoigner de son ras-le-bol. Car musulmane pratiquante, Selma porte un voile et se déplace régulièrement avec la boule au ventre. De nationalité française uniquement, elle est née en France et après avoir passé une partie de sa vie dans un pays du Maghreb, est revenue dans l'Hexagone il y a quelques années. D'abord en études secondaires, avant d'entrer à l'université d'Orléans. Son retour en France a été un choc pour elle. Regards, sous-entendus, et parfois même paroles ouvertement blessantes lui sont adressées.
Des fois ça s'enchaîne, dans une même journée, des fois je me fais, des remarques trois fois, alors que des fois durant deux semaines ça arrive plus, parce que tout le monde dit oui, les jeunes, la génération nouvelle, etc., mais il y a des fois des jeunes qui considèrent que je devrais pas me voiler, qui considèrent que le voile devrait pas être respecté à la fac, on m'a dit hein, à la fac, on a dit je devrais pas le mettre, je fais mais c'est pas vous qui décidez, c'est la loi, c'est j'ai le droit, déjà au lycée on n'a pas le droit, si à la fac on peut pas avoir le droit alors que je suis majeur vacciné, je suis conscient des moyens que personne n'a forcé à le mettre, on va pas en plus me restreindre jusqu'à mes 70 ans en fait, pour ne pas le porter. Parfois, je vais mes écouteurs et j'ignore parce que c'est trop pour moi à encaisser. Du coup, des fois, j'utilise un sujet dans le sens sale pute. De toute façon, si tu mets ton voile, c'est que pour exciter les gens autour de toi à cacher ton corps. En vrai, tu veux juste qu'on te soulève. C'est des propos qui sont assez graves. C'est quand même assez pas drôle de recevoir ça en pleine figure dans les transports ou dans la rue ou quoi. Et j'ai un ras-le-bol, du coup, ben voilà.
À cela s'ajoutent les nombreux regards suspicieux qui lui sont jetés, car ses parents sont cadres et gagnent bien leur vie. Apparemment, ils ont volé leur belle voiture et ils n'ont jamais travaillé pour, et depuis qu'ils sont tout jeunes, soupire-t-elle. De même que ses vêtements ou ses effets personnels, suspectés d'avoir été volés. Dans ses recherches d'emploi saisonnier, Selma se retrouve aussi freinée par le port de son voile. Elle explique qu'il n'est pas rare que les propos violents dont elle est la cible sortent de la bouche de jeunes personnes. Des étudiants lui répètent régulièrement qu'elle ne devrait pas porter le voile. Elle rappelle que la loi l'autorise à le faire dans l'espace public et à l'université. Quant au consentement, elle est catégorique et son jugement vaut aussi bien pour la France que pour les pays dans lesquels les femmes sont contraintes de porter le voile.
Le voile, c'est une obligation en islam et c'est quelque chose sur lequel j'ai aucun tabou à m'exprimer. Mais ceci étant dit, il y a un verset du Coran qui dit très clairement « La ikrah fi din », ce qui signifie « Il n'y a pas d'obligation en religion ». Donc aucun homme, je répète bien, aucun homme, ni aucune femme, ni aucun parent, ni aucune famille, ni aucun terroriste n'a le droit de venir dire à une femme comment elle doit s'habiller ou de la forcer ou de la contraindre parce que s'il le fait, il sera lui en tort et il l'aura lui dépêché. Donc la femme, elle est libre de ce qu'elle fait et on peut la conseiller, certes, on peut lui dire c'est mieux de te voiler, c'est mieux de te préserver, etc. Mais on n'a pas le droit de la contraindre. C'est quelque chose qui est très 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 grave dans notre religion et c'est quelque chose que j'aimerais qu'on dise plus haut et plus fort parce que c'est ça m'excède. On l'a mis pour plusieurs raisons. Déjà, pour être super honnête avec vous, c'est l'amour de Dieu. Moi, je suis croyante, je suis très très fière de mes croyances. Je ne l'écris pas souvent, pardon, haut et fort, mais je suis, ça se voit déjà, vu que je suis voilée, que je l'ai fait par amour pour Dieu. Et je l'ai fait parce que c'est ce qui m'aide à me lever chaque matin, à travailler à fond à l'école, à avancer dans les projets. C'est ma motivation en fait, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène dans ces mondes un peu compliqués. C'est ma religion. Et les gens, ça les rend malades quand on leur dit ça. Ils se disent non, c'est pas possible, elle est manipulée par son père. Mais mon père, il n'a jamais, jamais, jamais bouclé le voile avec moi de ma vie.
C'est-à-dire que ton père se serait pas opposé si tu lui avais dit papa, moi, j'ai pas envie de porter le voile. C'est vraiment ta décision propre.
Au contraire, il était contre. Il était contre la porte du voile. Et j'en connais énormément dans mon cas qui, leurs parents ne veulent pas. Et en combattant, elles le veulent et leurs parents ne les aident pas parce qu'ils leur disent non, tu vas te faire discriminer. Encore une fois, c'est pas parce qu'on va se faire discriminer qu'on ne doit pas mettre ce qu'on veut. D'accord ? Enfin, si des copines, elles mettent des mini-jupes et des décolletés pour aller en soirée le soir, moi j'ai envie de mettre un voile et une abaya. D'accord ? Donc si je mets un voile et une abaya, je la mets, mon abaya, et je mets mon voile. Et je trouve ça assez aberrant que dans l'ère du féminisme, on dit la femme, elle est libre, etc. Mais quand nous, on parle avec des féministes, elles me disent oh, franchement, je sais pas comment tu fais, tu sais manipuler, tu devrais pas, pas pour bien, je t'amène avec moi en soirée étudiante. Non, je n'ai pas envie d'aller en soirée étudiante, je mets ce que je veux. Si j'ai envie d'aller dans la mosquée le jeudi, je vais à la mosquée le jeudi.
Selma n'a pas pour objectif de rester à la maison après s'être mariée et avoir fait des enfants. Je veux faire des études, avoir un bon salaire aider des gens dans la société française, dans la communauté musulmane ou d'autres communautés. Je veux contribuer à la société et apporter ma pierre à l'édifice, souligne-t-elle. Mais Selma ne s'étonne pas de voir partir des musulmans diplômés. Alors que l'Assemblée nationale a été dissoute et que le Rassemblement national n'a jamais semblé autant proche du pouvoir, elle compte rester pour le moment. « Je vais rester en France, je vais me battre, et si jamais ça devient invivable pour ma santé mentale, je partirai si j'ai l'opportunité. »
La rédac pop de Radio Campus Orléans.
Et pour donner du contexte à ce témoignage et évoquer la question de l'islamophobie en France, je reçois deux sociologues. Olivier Esteves, professeur des universités culture et société anglophone à Lille, et Alice Picard, enseignante de sciences économiques et sociales dans le secondaire et chercheuse associée au laboratoire Rennais à Rennes. Vous êtes deux des trois auteurs du livre « La France, tu l'aimes mais tu la quittes » avec Julien Talpin. L'actualité chamboule un peu mon plan, le plan de départ, ce que je voulais aborder avec vous. Ça, je vais toujours aborder les questions que je voulais faire, mais c'est un peu sous un autre angle. Forcément, on est au lendemain des élections européennes, avec des résultats en faveur du Rassemblement National. Ça, c'était annoncé dans les sondages, mais par contre, ce qui a surpris tout le monde, c'était l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron. Tout d'abord, avez-vous été surpris par cette annonce? Et ensuite, je continuerai sur cette thématique. Mais d'abord, voilà le à chaud un petit peu.
Oui, moi je suis encore sous le choc. C'est vrai qu'ici ou là, on avait pu entendre parler de dissolution, mais enfin, ce qui est étonnant quand même, c'est que on a l'impression que Jordan Bardella a demandé la dissolution et Macron l'a fait.
Ouais. Oui, voilà, c'est un peu, je suis assez d'accord en fait. Effectivement, je suis abasourdi et on a l'impression que c'est effectivement Jordan Bardella qui dicte le tempo politique à Emmanuel Macron, quoi. Je pense qu'une réaction plus logique, si Emmanuel Macron était allé au bout de sa logique à lui, il aurait démissionné de la présidence de la République.
Mmh. Ça va lui donner le beau rôle, en fait. Il fait un calcul très dangereux, mais on peut très bien voir sa stratégie, qui est que, bon, d'une part, il parie sur le fait que les personnes, que les électrices... se disent que le RN n'est pas encore apte à gouverner. Alors, à partir du moment où quand même le RN fait 32% aux élections européennes et qu'il a gagné un certain nombre de municipalités, a accédé à un certain nombre d'exécutifs locaux, je ne pense pas qu'on puisse dire que les Français et Françaises considèrent que le RN n'est pas compétent pour gouverner. Et je pense qu'Emmanuel Macron se dit, et même s'il y a cohabitation, il sera dans le rôle du président en cohabitation, c'est-à-dire celui qui retrouve son rôle d'arbitre et qui peut se poser en opposant politique. Mais c'est un calcul très dangereux, et il espère que ça paiera en 2027 en arrivant auréolé de sa posture d'opposant, alors que en fait concrètement il a préparé le terrain. Donc là à ce stade on ne sait pas très bien dire ce qui le distingue du RN, mais il fera comme si.
L'autre élément, c'est que de toute évidence c'est quelqu'un qui semble obsédé, à l'image d'ailleurs d'autres présidents de la Ve République, hein, c'est quelqu'un qui semble être obsédé par la place qu'il laissera dans l'histoire, et bon, on en saura plus assez vite, mais il est probable que cette place qu'il laissera dans l'histoire sera associée à l'arrivée d'un gouvernement Rassemblement National, on verra.
Et que pensez-vous du moment présent et de ce qui se joue actuellement pour les musulmans et peut-être plus généralement aussi pour le pays? Parce que vous avez travaillé effectivement sur l'islamophobie, on va bien revenir dessus, mais je me demandais aussi dans quelle mesure la menace peut s'exercer selon vous pour aussi bien les musulmans que pour les LGBTQIA+, les réfugiés, les personnes sans emploi ou dans la précarité, selon vous?
Ce qui est sûr, c'est qu'à la lumière des raisons qui nous ont été livrées pendant l'enquête, déjà que depuis que le livre est sorti, on a un certain nombre de témoignages de personnes qui disent, bon, et en plus depuis le 7 octobre, l'atmosphère est encore plus étouffante qu'avant, donc je prépare mon départ. C'est vrai qu'un résultat comme ça aux européennes, l'annonce de la dissolution, le risque très fort d'une accession au pouvoir de l'extrême droite, en France, ça peut accélérer un phénomène de départ pour les personnes qui auront les moyens. Mais là, ça ne touchera peut-être plus seulement les musulmans et musulmanes, comme vous le disiez. On a, très clairement dans le programme du Rassemblement national, et pas que, hein, Reconquête, c'est pareil. C'est-à-dire que l'islam et les musulmans musulmanes ont été construits comme la figure repoussoire. Enfin, je veux dire, c'est Éric Zemmour qui a été beaucoup cité dans les entretiens, parce que quand on les faisait en 2021, Éric Zemmour commençait à monter, il était très invité dans les médias, etc. Et lui, son discours, c'est l'islam n'est pas compatible avec la République. Et donc, il y a cette vision-là, et puis une vision très, très ethniciste aussi de la nation en termes de ne vont avoir accès aux droits sociaux que les personnes qui auront la nationalité et encore, parce que le principe du RN, c'est de jouer sur les bons et les mauvais pauvres, et les mauvais pauvres, c'est plutôt les personnes issues de l'immigration.
Vous partagez ce regard, Olivier Esteves?
Oui, non, carrément, ouais, c'est vrai qu'effectivement, la raison d'être d'Éric Zemmour, hein, c'est clairement... l'islamophobie, quoi, par rapport, enfin, l'islamophobie ouvertement exprimée, hein, par rapport au Rassemblement national. Et en fait, quand on veut jauger le degré d'exceptionnalité de l'islamophobie en France, enfin, une manière de la jauger, de la justifier, c'est effectivement de penser à l'arrivée, en fait, d'Éric Zemmour au moment des présidentielles de 2022. C'est-à-dire qu'en fait, Voilà un parti qui est encore plus à droite effectivement que Rassemblement National et dont de fait la raison d'être c'est effectivement le discours islamophobe, quoi.
Le 9 mai dernier, plusieurs centaines de militants d'ultra-droite ont manifesté dans les rues de Paris. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein. Ils ont l'habitude de manifester tous les ans à cette période de l'année. Une manifestation qui était initialement interdite par la préfecture, puis autorisée par le tribunal administratif. Et si le Rassemblement national arrive au pouvoir, est-ce qu'on peut craindre un déchaînement de violence de la part de ces groupes? J'irais même peut-être plus loin, est-ce qu'on peut craindre un éventuel retour des ratonnades?
Alors, je ne sais pas, j'ai aucune idée de ce dont l'avenir sera fait, mais sauf erreur, parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, je pense que le terme de ratonnade a une histoire coloniale bien spécifique, et je pense que, enfin voilà, ça aurait du sens de revenir sur l'étymologie du terme et la façon dont effectivement on l'utilise au départ, en sachant qu'effectivement il a été utilisé à tort et à travers par toutes sortes d'acteurs politiques, hein, aussi des gens qui effectivement. Bon, des gens comme Alain Finkielkraut et tout, on peut utiliser ces termes-là pour des raisons qui sont très très différentes que celles que vous décrivez, on l'aura compris. Donc moi je serais très prudent par rapport à l'utilisation de ce terme-là, et sinon pour répondre plus empiriquement à votre question, je n'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'idées, si ce n'est qu'effectivement l'arrivée du Rassemblement National au gouvernement pourrait donner un blanc-seing au moins symbolique à un certain nombre de groupuscules pour lesquels vous aurez compris que les auteurs du livre n'ont pas vraiment de sympathie, quoi.
Et puis ce qui est sûr, c'est que ces groupes n'attendent pas l'arrivée du RN au pouvoir pour exercer leur violence. Il y a des actions d'intimidation, et surtout dans certaines villes comme Lyon, si on va citer une ville où l'extrême droite est fortement implantée, il y a déjà des agressions physique envers des personnes, envers des lieux emblématiques de la gauche, tels que des librairies. Il y a des locaux associatifs qui ont déjà été tagués avec des symboles fascistes. Et ça, c'est déjà en train de monter, et le RN n'est pas au pouvoir. Et par rapport à au thème du livre, ce qu'on documente, c'est des personnes qui nous parlent d'ores et déjà d'agressions racistes. C'est pas forcément des militants et militantes d'extrême droite, justement. Ça diffuse et ça infuse au sein de la société, et le collectif contre l'islamophobie en France, quand il avait encore le droit d'exister, documentait les actes islamophobes et montrait qu'ils étaient en hausse, et notamment des agressions physiques vis-à-vis de femmes qui peuvent porter un hijab, parce que c'est un signe visible dans l'espace public, et donc il y a eu des cas d'agressions de femmes à qui on a voulu retirer leur hijab de force. Donc ça existe déjà. Et donc c'est vrai qu'avec l'accession au pouvoir de l'extrême droite, ça continuera d'aller dans ce sens, et ça légitimera sans doute aussi, ça affaiblira ce qui protège encore des discrimination dans les services publics ou dans l'emploi.
Vous démarrez votre livre sur un témoignage, celui d'une jeune musulmane orléanaise qui porte le voile et que vous avez appelé Ilham. Je précise, hein, le prénom a été changé. Ce même voile que porte une étudiante que nous appellerons Selma, qui est venue nous voir au sein de nos locaux de Radio Campus Orléans. Toutes deux évoquent les regards, les méfiances continuelles que ce tissu attaché à leur tête génère au quotidien auprès des personnes qu'elles rencontrent. Toutes deux parlent de l'acte de leur retiré à l'entrée de l'école ou quelques rues plus tôt. Toutes deux parlent aussi du décalage considérable entre la France et les autres pays comme l'Angleterre ou l'Espagne dans leur traitement de l'islam au quotidien. Elle évoquait justement ces insultes quotidiennes qu'elle subissait, en fait, que ce soit dans le bus, que ce soit dans la rue, que ce soit cette justification aussi assez permanente dès qu'elle est dans ses études à la fac, par exemple. On lui demande pourquoi est-ce qu'elle porte le voile et qu'elle devrait le retirer, alors que rien dans la loi, pour le coup, ne l'oblige à retirer son voile dans l'espace de l'université. Des insultes qui peuvent aller même à des propos sexistes, si ce n'est même de harcèlement sexuel, on va dire ça comme ça. Bref, voilà, tout cela, en fait, qui part de ce regard, en fait, que l'on porte parce qu'elle porte un voile, en fait, tout simplement. Moi, je me demandais, dans votre travail d'enquête, est-ce que ce genre de témoignage était légion ?
Vous avez parlé dans votre propos liminaire de l'existence de pays où effectivement, de fait, ces difficultés-là existent beaucoup moins, voire pas du tout. Et vous avez parlé de l'Angleterre et de l'Espagne. Alors, c'est pas un hasard, parce qu'effectivement, dans le livre, dans l'introduction, Ilham évoque elle-même l'Espagne. Hein. Néanmoins, en fait, le nombre de personnes à qui on a parlé, qui ont vécu alors soit en Espagne, soit en Italie, est quand même relativement, voire très limité, et donc permet pas de généraliser, si vous voulez. A contrario, effectivement, le nombre de personnes qui viennent d'Angleterre est assez considérable, et donc ça permet beaucoup plus facilement de généraliser par rapport à, effectivement, ce contraste avec la France, quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, dans tout ce que vous me décrivez, il y a des situations très très différentes qui sont vécues par une même personne. C'est-à-dire qu'il y a ce qui relève des micro-agressions dans la rue, les insultes, éventuellement les crachats, les agressions physiques et tout. Et puis les mauvais traitements, les agissements racistes dans l'université, soit par des étudiants et étudiantes, soit par des fonctionnaires de l'État français, en fait, des profs, quoi. Et alors nous, on a effectivement dans le bouquin, et puis nous, on l'avait déjà fait avant, hein, à l'université de Lille avec un. On a eu une sorte d'affaire du voile, on va dire ça comme ça, où en fait on a dû alerter la présidence de l'université de l'interdiction d'accès à des cours de sport depuis des années, qui était donc imposée par un prof de sport en toute illégalité, en fait.
D'accord.
Et la présidence de l'université a fermé les yeux, la référente racisme et antisémitisme de l'université elle-même a fermé les yeux, ce qui semble assez ahurissant compte tenu de sa fonction en tant que référente racisme antisémitisme. Et après, notre seule issue, en fait, c'était de médiatiser l'affaire en publiant une tribune sur Mediapart. Donc, au moment où on lance l'idée du bouquin, ces agissements-là, je veux dire, on les connaît, quoi. Et on sait qu'effectivement, ces agissements revêtent un caractère complètement extra-légal, quoi. Et donc, ce qui est assez ahurissant, c'est qu'en fait, le CCIF, qui a été vilipendé comme étant en dehors de l'arc républicain, pour parler le langage de la Macronie, s'intéressait quand même surtout dans des efforts de médiation, en fait. Ce qu'ils faisaient, c'était qu'en fait, ils faisaient de la médiation avec par exemple des universités, pour faire comprendre à des collègues qu'effectivement, interdire le hijab à l'université, ça n'entre pas dans le cadre de la loi française, puisque la loi 2004, par exemple, sur l'interdiction des signes religieux à l'école, ne s'applique pas à l'université, en fait. Alors après, il y a un flou artistique avec les classes préparatoires, puisque les personnes qui sont en classe préparatoire sont normalement majeures, mais les classes prépa sont dans l'enceinte des lycées, donc c'est un peu compliqué et tout. Mais bon, de toute façon, comme on lit dans le bouquin, des personnes qui portent un hijab et qui sont en classe préparatoire sont pas nombreuses, voire pas nombreuses du tout. Donc la question se pose de manière très très résiduelle, quoi. Donc oui, ce que vous nous décrivez, effectivement, est assez symptomatique d'un ensemble, avec l'idée que tend à s'imposer effectivement une définition extra-juridique de la laïcité que moi j'ai appelée un certain nombre de fois ces derniers temps une laïcité d'interdiction, en fait, qui souvent est extra-légale.
Ça témoigne d'une diffusion de d'une certaine approche de la laïcité, et ça montre aussi que les personnes les personnes s'appuient sur une loi comme celle de 2004 pour aller au-delà. C'est ce que disait Olivier. Maintenant, on s'en sert à l'université, alors que ça ne s'y applique pas. Mais ça légitime ce mouvement, ce processus, puisque avant 2004, la neutralité ne concernait absolument pas les usagers et usagères du service public, mais simplement ses agents. Et donc, en ouvrant la porte à une extension de cette neutralité, ça amène aux interprétations extra-juridiques dont parlait Olivier. Et puis, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'en 2016, avec la réforme, la loi travail, les entreprises privées sont désormais autorisées à imposer une neutralité ou la neutralité à leurs employés, leurs salariés, à partir du moment où c'est inscrit dans le règlement intérieur. Donc on voit quand même ces effets de diffusion. Par contre, ce qui est nouveau, en tout cas pour moi, parce que je ne me souviens pas l'avoir vu dans des entretiens, c'est l'aspect harcèlement sexuel, mais qui n'est pas forcément surprenant dans la mesure où les discriminations qui s'exercent, enfin les agressions que subissent les femmes musulmanes sont éminemment intersectionnelles, donc c'est-à-dire qu'elles sont discriminées en tant que musulmanes et en tant que femmes. Et historiquement, l'islamophobie étant un des résultats, a légitimé un des résultats de l'histoire coloniale française, et on sait très bien qu'il y a eu tout un tas de discours sur le dévoilement des femmes et l'accès au corps aussi des femmes avec toute une exotisation, c'est tout le principe de l'orientalisme, hein, le fantasme des harems par exemple, et en fait, sans vouloir surinterpréter, ça peut mettre sur cette piste quand même.
Vous êtes trois à la rédaction de ce livre. Comment avez-vous procédé? Quelle méthodologie avez-vous utilisée pour écrire ce livre? Je crois que vous avez aussi été aidé par d'autres personnes issues également du monde de la recherche, hein. C'est ce que vous aviez expliqué, je crois, dans une interview à France Info.
Oui, alors en fait, au départ, on est une petite dizaine de membres dans l'équipe, quoi. Alors, pour toutes sortes de raisons liées à des trajectoires de carrière. Des questions logistiques, des questions de calendrier, des questions des fois de désaccord. Au final, on est à trois à être donc co-auteur et autrice du bouquin. Néanmoins, il va de soi que si on avait été que trois dès le départ, faire ce bouquin aurait pas pris 3 ans, ça aurait pris, je sais pas, moi, beaucoup plus, quoi. Donc ça, c'est un premier truc. Alors, s'agissant d'éléments de méthodologie très très généraux, on a un volet quantitatif, en fait, qui fait suite à la publication par Mediapart d'un appel à témoins pour lequel 1070 personnes ont répondu. Donc voilà, un questionnaire de 37 à 38 questions, dont la dernière question était pour aller plus loin. Et donc, pour aller plus loin, les gens nous donnaient, enfin, les participants et participantes nous donnaient leur mail, qui permettait après de reprendre contact pour mettre en place, organiser un entretien biographique. Et on a donc dans le bouquin 139 entretiens biographiques avec des personnes qui étaient prêtes, effectivement, à nous raconter leur itinéraire personnel, leur découverte d'un pays étranger, puis leur regard donc rétrospectif sur la France en général, quoi.
Et lorsque on parle d'islamophobie en France, je reprends hein, la thématique de votre livre et ce que vous aviez pu éventuellement observer. Lorsqu'on parle d'islamophobie en France, vient inéluctablement la question de la laïcité à la française plus précisément. Alors, elle a peut-être été pensée initialement comme un moyen de permettre à chacune et chacun de croire et de ne pas croire et d'exercer ou de ne pas exercer de pratiques religieuses dans une logique de vivre ensemble. Mais elle est vécue aujourd'hui comme un instrument d'oppression pour de nombreuses personnes de confession musulmane. Est-ce le cas selon vous et dans quelle mesure ?
Alors ouais, me viennent plusieurs réflexions. Alors déjà, laïcité à la française, c'est déjà comment, c'est un pléonasme, c'est-à-dire que la laïcité, c'est déjà une spécificité française. Bon, ça, elle a été importée en Turquie au début du XXe siècle, mais c'est un mot qui ne se traduit pas vraiment dans d'autres langues. Dans d'autres langues, on va parler de processus de sécularisation, de séparation des églises et de l'État quand ça existe, mais pas de laïcité. Et la laïcité en France, c'est très particulier parce que c'est au moment où il y avait un processus de sécularisation qui concernait la France et d'autres pays, il y avait une volonté de l'Église catholique de ne pas céder son pouvoir social et son influence et donc oui voilà son rôle social dans la société, dans l'économie et en politique. C'est un rôle très particulier de l'Église catholique en France. C'est pas la seule religion qui a été associée au pouvoir royal, mais c'est un pays où il y a eu aussi où les minorités religieuses étaient très minoritaires pour le coup. Et donc la laïcité, elle a servi comme arme politique contre cette bataille tout à fait politique de l'Église catholique. Mais c'est à peu près à la même époque où la France est un empire colonial, et donc c'est à peu près à la même époque aussi où on vote la loi de 1905 qui sépare les églises et l'État, et c'est une loi qui ne s'est pas appliquée aux territoires colonisés, et en premier lieu qui ne s'est pas appliquée à l'Algérie. Et donc, il faut peut-être un peu déplacer le regard. Alors aujourd'hui, la laïcité sert à stigmatiser les populations musulmanes, mais pendant longtemps, on n'a pas appliqué la laïcité parce que la mainmise et le contrôle de l'État sur les religions étaient aussi bien pratiques pour contrôler les populations colonisées. Donc il faut avoir ces deux éléments en tête pour comprendre un petit peu ce qui se passe en France en termes d'approche de l'islam, qui n'est pas simplement une religion, qui est la religion des anciennes populations colonisées et en fait des populations issues des migrations post-coloniales.
Voilà, juste deux, trois éléments peut-être plus liés au contenu du bouquin, quoi, même si effectivement le cadrage que fournit Alice est très très éclairant par rapport à la question que vous posiez. Il y a un certain nombre de personnes qui nous ont parlé, et ça devrait effectivement nous interroger collectivement. Un certain nombre de personnes qui nous ont parlé, qui nous ont dit, voilà, en Angleterre, l'Angleterre, elle est plus laïque que la France. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'arc-boute en France sur une sorte d'identité française qui serait liée à la laïcité et tout, souvent par le biais d'oppositions un petit peu manichéennes entre nous, les Français, les Républicains, les laïcs, versus les Anglo-Saxons, ce genre de choses. Et donc, des personnes qui nous disent « Ouais, mais en fait, l'Angleterre, elle est plus laïque que la France », au sens où la laïcité se déploie comme une liberté de religion. En anglais, on dirait « freedom of ». Freedom of religion. Moi, je pense beaucoup à la dichotomie entre une liberté qui serait positive et une liberté qui serait négative. C'est-à-dire liberté, freedom of religion, liberté de religion, liberté de culte. Freedom from, une liberté vis-à-vis d'eux, en fait, une émancipation par rapport à, quoi. Et cette liberté définie négativement, généralement, elle est associée à des choses négatives. En anglais, on dit, alors il y a un fameux discours de Roosevelt là-dessus, freedom from fear. Freedom from danger, donc liberté vis-à-vis de danger, la peur et tout. Et donc en fait en France, de plus en plus souvent depuis 1989, la laïcité se déploie comme une liberté vis-à-vis des religions, freedom from religion. Et clairement, et moi je ne cesse d'insister là-dessus, la religion qui est visée, c'est la religion musulmane. Si vous regardez, alors on peut avoir un débat qui va durer des heures et tout là-dessus, mais Vous regardez simplement sur les archives numériques du Monde, le Monde qui est donc voilà, un laboratoire de l'État, du débat public en France depuis 1945. Vous regardez laïcité, islam, avant 1989, vous n'avez quasiment aucune occurrence. Bon, alors si vous avez des occurrences de laïcité et islam, c'est toujours par rapport à des pays qui ne sont pas la France, comme l'Égypte, la Turquie, le Sénégal, voilà, le Maroc ou d'autres pays. Et à partir de 1989, l'occurrence de laïcité avec islam, ça devient exponentiel. Et c'est pas un hasard, puisqu'en fait, 1989, ça correspond à la première affaire dite du voile. Donc voilà, on est en plein dedans, quoi. Et effectivement, lorsque... Moi, il y a une expression en anglais qui est « dog whistle politics ».« Dog whistle politics », c'est une expression qui permet, notamment aux États-Unis, de faire référence à des questions politiques qui mettent en jeu des dimensions raciales sans qu'on parle ouvertement de race, quoi. Si en anglais, aux États-Unis, on dit neighborhood schools dans l'histoire, ou si on dit law and order, ou si on dit quality of life issues, en fait, on parle de questions raciales, sauf qu'on n'en parle pas empiriquement. Et bien, la laïcité, c'est pareil.
Il y a
En
un
France,
vrai.
quand on parle de laïcité, on parle d'islam, sauf qu'en fait, on n'en parle pas. Et au lieu d'être contre l'islam ou contre les musulmans, on est pour la laïcité. Donc on est pour un truc qui semblerait positif, effectivement.
Il y a un vrai distinguo donc dans le traitement des personnes de confession musulmane par rapport à celui des autres croyants, catholiques, juifs, protestants, etc., selon vous, dans la laïcité.
Vous voulez dire en France maintenant?
Ouais, en France maintenant, oui.
Oui, bah déjà, ne serait-ce que l'accès à la l'accès à une éducation privée sous contrat. C'est-à-dire que bon, moi je suis pas un chantre de l'éducation privée sous contrat, ça se saurait. Mais bon, en Angleterre, à partir de 1997, 1998, ont été créées des écoles publiques donc financées, enfin des écoles donc pri des écoles publiques donc religieuses, qu'on appelle des faith schools, financées en fait par l'État. C'est-à-dire que les personnes qui sont mobilisées pour ça, donc bien sûr des personnes musulmanes, ont dit, en fait, les catholiques ont leurs écoles financées par l'État, les méthodistes ont leurs écoles financées par l'État, les juifs ont leurs écoles financées par l'État. Pourquoi est-ce que nous, les musulmans, on n'aurait pas la même chose? Et de fait, un certain nombre d'écoles donc musulmanes financées par l'État ont été créées. Bon, là, le force est de constater qu'en France, effectivement, ça bloque. Et il vous aura pas échappé qu'il y a un hiatus considérable entre ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle le collège Stanislas, qui n'est pas qu'un collège, et puis le lycée Averroès à Lille, par exemple. Enfin, ça c'est un truc qui typiquement doit nous interroger, quoi.
Et puis, j'ajouterais que dans la manière dont a été cadré le problème de la laïcité, jusque dans les années 80, on est encore dans cette bataille, dans cette guerre scolaire même, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est-à-dire que l'enjeu pour les défenseurs et les défenseuses de la laïcité, c'était la défense de l'école publique face à l'école privée, donc catholique. Jusqu'en 1984, où là, il y a une défaite très claire pour le camp laïque, qui fait suite en fait à 1959, c'est le début des écoles sous contrat. Donc l'État finance les écoles privées. Et en 1989, ça bascule. C'est-à-dire que là, le problème, ça n'est plus la guerre scolaire. Enfin, c'est une autre forme de guerre scolaire, mais cette fois, c'est une guerre qui va concerner des usagères de ce service public, puisque c'est la première histoire, enfin, la première affaire du voile connue, en tout cas, parce que il y en a certainement eu d'autres, mais qui étaient moins médiatisées. Mais à partir de ce moment-là, à chaque fois que la laïcité revient dans le débat, c'est pour parler du port du hijab à l'école. Et ça culmine en 2004 avec la commission Stasi et une loi donc qui interdit les signes qui permettent de manifester ostensiblement une appartenance ou une confession religieuse, je ne sais plus exactement les termes.
Les signes
Ça
religieux
a été formulé
ostentatoires, je
comme
crois.
ça, mais je crois que c'est mani qui manifeste ostensiblement, donc oui, ostentatoire. Mais quand on regarde les débats au sein de la commission Stasi, parce qu'il a trouvé une formulation qui permettait d'avoir la validation du Conseil constitutionnel et avant ça du Conseil d'État qui a regardé un petit peu les formulations, en fait, tout se focalisait autour du hijab. Donc, même si on a une formulation qui a l'air plus universaliste, en réalité, ou même quand on regarde à chaque fois qu'on reparle de laïcité depuis, les plus récentes affaires concernent l'abaya, qui est encore un vêtement religieux porté par les femmes.
Ouais, alors si vous regardez pour faire un petit peu pour justifier en fait ce que disait Alice, mais de manière en faisant un petit peu la preuve par l'absurde, si vous regardez tous les textes importants qui traitent de la question de la pédocriminalité dans l'Église catholique, vous regardez le rapport Sauvé par exemple, il n'est jamais question de laïcité, quoi. Jamais. Le terme de laïcité n'est jamais utilisé. Or, en fait, vous avez quand même affaire à des situations où vous avez des prêtres qui disent clairement « Oui, moi, j'ai écouté la loi de Dieu telle que je l'imagine, et non pas les lois de la République. » Quoi. En quoi est-ce que ça ne poserait pas une question de laïcité? Je n'ai pas dit que ça posait une question de laïcité, hein, mais je pose la question. En quoi est-ce que ça, ce ne serait pas une question de laïcité? Et en quoi est-ce que voilà, une étudiante qui porte un hijab dans les couleurs de la fac, ce serait une question de laïcité? Là, on le voit bien, cette histoire de dog whistle politics, à travers ces deux cas-là. En fait. Et moi, j'ai déjà parlé à des journalistes, alors, notamment du Monde, par exemple, et lorsque j'ai évoqué cette idée-là, c'était abasourdi, en fait. C'est-à-dire qu'on est tellement dans un cadrage, depuis des années et des années, autour de laïcité, appréhendé uniquement comme ça, que dès qu'on fait un pas de côté... Alors, c'est pas qu'on a l'impression qu'on prétend que la Terre est plate, mais les gens vous regardent en disant ah « Ouais, c'est vrai, c'est pas con et tout. » Mais en fait, c'est super logique.
Je veux faire la suite de notre entretien sur ce terme d'oppression, puisque j'évoquais la pression que subissait donc la communauté musulmane par ce biais. Je voulais revenir sur un autre type d'oppression qu'on entend très souvent, à savoir les opposants au voile en France qui évoquent cet argument dans l'autre sens pour justifier leur position où ils évoquent une oppression de la femme par le voile. Moi, ayant discuté avec cette fameuse étudiante que j'ai appelée Selma tout à l'heure, me certifier et je n'avais aucune raison de la contredire puisque vraiment la manière dont elle me parlait, dont elle m'a raconté son histoire, je pense qu'elle est parfaitement honnête lorsqu'elle m'explique que le choix du port du voile, c'est un choix intime et c'est son choix à elle, et même son père ne voulait pas qu'elle porte le voile par risque qu'elle se fasse discriminer, que son mari ne voulait pas qu'elle porte non plus le voile. Donc elle m'expliquait que c'était vraiment un choix de son intime et de sa spiritualité.
Ouais, ça, excusez-moi de vous interrompre, ça c'est vraiment très classique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on entend tout le temps, quoi. Les personnes disent tout de suite oui, bah moi mon père ne voulait pas, mes frères étaient contre, m'ont dit ouais tu vas te faire insulter, tu vas te faire discriminer. Donc c'est vraiment le récit classique. C'est quand je dis c'est le récit classique, c'est pas une manière de remettre en cause la. Ouais,
c'est que ça revient souvent.
Tout à fait, ça revient très souvent.
Ouais. Mais justement, dans quelle mesure ces personnes qui prétendent défendre les droits des femmes face à une oppression, en citant notamment le cas de l'Iran ou d'autres pays comme ça, ils utilisent souvent ce genre d'argument-là. Dans quelle mesure ces personnes-là peuvent-elles avoir raison ou tort, au contraire, dans leur argument de défense face à l'oppression que ces femmes subiraient?
Je travaille sur ces sujets depuis 10 ans, donc les arguments, je les ai entendus et entendus à nouveau. Et... Le problème, c'est que l'analogie avec l'Iran, elle est mal trouvée. Parce que... Enfin, ou alors, poussons la cohérence jusqu'au bout. Les femmes iraniennes se battent pour qu'on ne les oblige pas à porter un foulard ou un voile, quel qu'il soit. Et en fait, la bonne analogie, c'est de dire qu'en France, les femmes se battent pour qu'on ne leur impose rien, ni le port du hijab ou autre voile, ni le fait de l'enlever. C'est-à-dire que si on est vraiment sincère dans la défense des droits des femmes, on défend le libre choix, en fait. Des femmes, et c'est quand même le seul accessoire vestimentaire qui fait l'objet de tant de commentaires, alors que en fait on pourrait multiplier les exemples de choix qui n'ont pas l'air si compatible avec l'émancipation, mais en fait l'émancipation est quelque chose qui se vit individuellement et collectivement, et en tout cas on ne peut pas, À partir du moment où une autre personne nous impose un vêtement, enfin de l'enlever ou de le mettre, c'est ça qui devrait nous questionner. Et d'autant plus quand ce vêtement est porteur de tant de, comment dire, de connotations coloniales, en fait. Puisque en 1958, au moment où... Enfin, où on commence à parler de putsch aussi, il y a des cérémonies de dévoilement. Mmh. Donc, il y a, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, sur l'exotisation, l'orientalisme, il faut avoir accès au corps décolonisé. Et il y a aussi, et sans doute qu'il y a des personnes très sincères, hein, dans leur, dans le fait de s'inquiéter pour l'égalité femme-homme, mais sans doute que la meilleure manière de faire, c'est pour le coup de pas stigmatiser aussi certaines franges de la population. Parce que sinon en plus ça peut être retourné par certains hommes, voilà, qui vont à juste titre ou non, hein, se méfier de tous ces discours, qui vont associer ça à la stigmatisation de l'islam, et ça délégitime ce genre de propos, de discours, de processus, quoi.
Alors, juste historiquement, je vous renvoie, donc pour faire écho à ce que disait Alice s'agissant des cérémonies de dévoilement et tout, je vous renvoie au texte classique de Frantz Fanon, l'enseigne de la Révolution algérienne, qui sort en 1959, sauf erreur. Et donc le premier chapitre, je pense, de ce bouquin, là, oui, c'est ça, le premier chapitre parle exclusivement de cette question-là, sous l'aspect effectivement colonial. On est en 59, donc 3 ans avant l'indépendance de l'Algérie, et le texte est extrêmement éclairant. Après, moi, ce que je dirais, en fait, c'est que la sociologie ou n'importe quelle science humaine ne permet pas d'objectiver le degré d'oppression, de choix donc librement effectués ou de choix imposés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir combien de femmes en France portent un hijab parce qu'elles sont contraintes de le faire. C'est impossible. Ces femmes-là existent. La sociologie tendrait à suggérer qu'elles sont minoritaires. Mais en même temps, quand on interroge des femmes qui portent un hijab, quand des sociologues interrogent des femmes qui portent des hijabs, fatalement, ça va être des personnes qui vont être plus facilement visibles dans l'espace public. Bon. Mais effectivement, on a tendance à penser qu'elles sont minoritaires, mais est-ce que c'est 12,5%, 27,8%, c'est impossible de le dire. Mmh. Donc ça c'est un élément qui est absolument crucial. Nous dans nos universités, bon, bah, moi, à Roubaix, au LEA où je suis, là, j'ai beaucoup d'étudiantes qui portent un hijab. Je veux dire, si elles étaient opprimées, elles ne seraient pas à la fac, quoi. Oui. Même si, bon, enfin, voilà. Donc, enfin, le débat public est tombé depuis des années à un niveau tellement abyssal qu'on est obligé de rappeler ça, en fait. Après, ce que je pense, c'est quoi aussi, c'est qu'un certain nombre de personnes, même si elles peuvent être de bonne foi, comme le disait Alice, un certain nombre de personnes qui portent ce discours-là sont des personnes qui vivent pas dans la même France qui ont pas grandi et qui évoluent pas dans la même France que celle des étudiantes à qui je donne cours, en fait.
Selma me parlait d'arguments de...
Dans le 16e arrondissement de Paris, et voilà, c'est facile pour vous de penser ça, quoi, en fait.
Selma me parlait d'arguments de personnes féministes qui lui ont fait ces remarques sur le voile, et où elle leur rétorquait, elle leur disait, mais en fait, vous faites absolument ce que vous voulez, je n'ai pas à vous juger, mais ne me jugez pas. Si moi j'ai envie d'aller à la mosquée, si j'ai envie de prier, je le fais, je ne vais pas vous juger sur ce que vous allez faire également. Est-ce qu'il y a également des problématiques vis-à-vis des féminismes, de différentes formes de féminisme qui n'arrivent pas à s'entendre aussi sur cette question?
Ça, c'est sûr que c'est un grand point de clivage, ouais. Au sein des féminismes, je ne sais pas comment ça évoluera dans les années qui viennent, mais oui, c'est un constat qu'on fait depuis au moins en fait la loi de 2004, où là ça avait très fortement divisé les féminismes ou les mouvements féministes, avec même ça revient sur d'autres questions. C'est pas le seul point de clivage, mais déjà plusieurs cortèges le 8 mars, parce que les différents courants féministes n'étaient pas forcément capables de s'entendre sur cette question.
Je vais accélérer un petit peu l'entretien. Je vais aller dans l'angle principal de votre livre pour que l'on puisse également évoquer cela, parce que c'est super intéressant ce que vous dites. Vous évoquez dans votre livre cette fuite des personnes de confusion musulmane à l'étranger. Moi, je voulais savoir dans quelle mesure ou jusqu'à quel point on peut qualifier ce phénomène, c'est-à-dire est-ce que ces personnes sont nombreuses, de quel type ces personnes sont, catégorie sociale peut-être. Est-ce qu'on peut faire un résumé un petit peu de cela ?
D'abord, on ne peut pas savoir combien ces personnes sont pour toutes sortes de raisons empiriques. Hein. Les enquêtes qui sont menées par le Quai d'Orsay sur les Français et Françaises de l'étranger, déjà, sont pas, enfin voilà, sont largement améliorables. En plus, on n'a pas non plus, nous, en France, de recensement hein, qui inclurait donc des questions ethniques ou religieuses. Donc, fatalement, on est dans des. Enfin, on étudie des objets qui sont assez largement inobjectivables. Si notre échantillon est représentatif d'un ensemble, et en fait, on ne peut pas le savoir, nous, et nos détracteurs ne peuvent pas non plus nous dire que l'échantillon qu'on utilise n'est pas représentatif. Donc, le fait est qu'on a plus, on a 54% de personnes qui ont bac plus 5, au moins.
Ah oui.
Ce qui, de fait, contraste assez. Assez clairement et avec la population française prise dans son ensemble en moyenne et avec la composante musulmane de la société française telle qu'elle est donc investiguée par l'enquête Théo par exemple. Ensuite, on a des gens qui souvent se définissent par une assez forte religiosité en fait, qu'elle soit pratiquante ou pas, l'identification à l'islam. Alors après, bon, il faut qu'on débatte ensemble, qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'effectivement un musulman ou une musulmane pratiquante. Mais ce sont des personnes pour qui l'identification à l'islam est assez importante, voire forte, quoi.
Mais ce sont des personnes qui sont aussi quand même attachées à la France, c'est ce que vous dites dans le titre. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce tiraillement par rapport au pays quitté. C'est un tiraillement qui est dû à une certaine gratitude vis-à-vis du système français qui leur a permis de faire des études quasiment gratuites, hein, même si effectivement ça coûte très cher de faire des études. Il y a beaucoup de précarité étudiante. Alors vous savez ça sans doute beaucoup mieux que moi, donc à Radio Campus Orléans, quoi. Il n'empêche que les frais d'inscription sont proprement dérisoires par rapport au pays d'installation de ces personnes, hein, bon, les États-Unis, le Royaume-Uni, voilà, le pays du Golfe Persique et tout. Donc ça, c'est un premier élément. Donc la gratitude par rapport au système, même si le système est loin d'être parfait, et puis le système ferme les yeux par rapport à toutes sortes de discriminations, toutes sortes de phénomènes de racisme et tout. Et puis le fait que la famille des personnes à qui on a parlé est souvent restée en France, en fait. Donc, et puis des souvenirs individuels, des souvenirs collectifs, des souvenirs de socialisation, la culture populaire, des traditions culinaires, le fait de supporter telle ou telle équipe de foot, enfin voilà, toutes sortes d'éléments qui font que ces personnes sont éminemment françaises, quoi.
Et du coup, la conséquence de ça, c'est que cette installation, elle est vécue parfois comme un exil, parce que contrairement à d'autres personnes qui s'installent à l'étranger, la motivation principale n'est pas l'adhésion ou l'attirance pour un pays étranger, sa culture ou son système politique, mais vraiment le fait de vouloir partir. J'étais invitée par RFI il y a quelques jours. À cette occasion, le témoignage d'une personne qui prépare son départ était diffusé. Et en fait, la personne interviewée disait, ben, en fait, on voulait partir. On savait qu'on voulait partir dans le sud global ou on ne savait pas. En tout cas, ce qu'on savait, c'est qu'on ne voulait pas rester en France. Mmh. Et ça, c'est vraiment ce qui est commun. C'est qu'on quitte la France, on s'installe à l'étranger. Après, on a un certain nombre de critères. Mais c'est souvent parfois aussi des opportunités, tout simplement.
Alors, certaines personnes islamophobes rétorqueraient que ce n'est pas un problème de voir des personnes musulmanes quitter le pays, mais de votre point de vue, justement, il y a l'argument de la fuite des cerveaux, puisque 54%, vous avez dit, ont quand même bac plus 5, voire plus. Mais au-delà de ça, en fait, moi, je voulais voir également, sur votre point de vue, la perte que représentent ces départs de personnes de confession musulmane pour la France. Qu'est-ce que cela peut représenter pour le pays ?
Bah, en fait, on évoque ces questions-là à la conclusion du bouquin. C'est-à-dire qu'on sait maintenant, c'est quand même assez bien documenté, que les discriminations, quelles qu'elles soient, hein, coûtent beaucoup d'argent aux différents États. La France est quand même le pays dans l'Union européenne où les discriminations raciales sont les plus intenses. Et c'est paradoxalement un des pays où effectivement on dépense le moins en matière de lutte contre les discriminations. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, alors, l'autre élément, c'est qu'en fait, lorsqu'on insiste sur cette dimension de fuite des cerveaux, c'est surtout parce qu'en fait, c'est ce qui nous est décrit par les personnes à qui on a parlé, quoi, qui souvent utilisent l'expression, enfin, le mot de gâchis, en fait. Ça, c'est un vrai gâchis, c'est un vrai gâchis. Nos études ont été payées par la France, et en plus, maintenant, on se retrouve à payer, à travailler pour l'économie canadienne ou l'économie du Bayot, ou voilà, quoi. Donc, l'expression de gâchis est souvent revenue dans les entretiens. Et néanmoins, en conclusion du bouquin, en fait, on insiste beaucoup, et peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur cette dimension-là dans les entretiens qu'on a eus avec les médias, pour le coup, non pas les entretiens avec des enquêtés, sur le fait que, au-delà d'une question de rationalité économique, c'est une question de justice démocratique, en fait. Voilà, c'est une question d'égalité des droits, c'est une question c'est une vraie question de justice démocratique, la question des discriminations, même si de fait, il y a un certain nombre d'enquêtés à qui on a parlé qui n'ont pas vécu de discrimination, parce que les discriminations, c'est un enjeu majoritaire, effectivement, dans nos enquêtés, mais dans les enquêtes qu'on a, dans les entretiens qu'on a eus, mais c'est pas toujours le cas, c'est souvent le cas, mais c'est pas toujours le cas. La question des discriminations, de fait, effectivement, pose le problème comme étant, effectivement, comme relevant de la justice démocratique, quoi.
Peut-être d'un point de vue peut-être plus philosophique, mais c'est parce qu'on fait référence à des travaux notamment de Du Bois, qui est un des premiers sociologues et qui parle de l'expérience des populations noires aux États-Unis et qui parle du point de vue minoritaire, qui a un point de vue. Alors, je vais le dire très rapidement, et donc c'est forcément caricatural, mais qui a un point de vue enrichi sur le monde, puisque les populations minoritaires ont à la fois le point de vue issu de leur expérience et en même temps connaissent le point de vue majoritaire. Et en fait, c'est aussi ces expériences dont on se prive, et en termes de démocratie aussi, c'est toujours bien aussi de pouvoir se remettre en question en termes de diversité culturelle et des points de vue. C'est aussi de ça dont on se prive.
Quand on est interrogé par des médias et quand on parle au pouvoir en place, donc à la Macronie, quoi, on est dans une sorte de sillon où on est amené finalement à insister sur l'aspect rationalité économique, quoi. Donc,
D'accord.
à un pouvoir néolibéral, il faut pouvoir dire, voilà, bah, écoutez, notre enquête montre bien que dans un certain nombre de cas, l'islamophobie en France est plus forte que le capitalisme, quoi.
On va bientôt conclure l'entretien. Il me reste encore deux ou trois questions grand maximum à vous poser. La première, c'est pourquoi un tel traitement de la religion musulmane, en fin de compte, parce qu'on a évoqué justement ce processus de laïcité, on a parlé au cours des dernières décennies de ce focus qui a vraiment été fait sur la religion musulmane par rapport à d'autres religions. Pourquoi en fait un tel traitement de l'islam aujourd'hui?
Bah,
Elle est
il y a
peut-être
tout un
compliquée la
tabou, je
question.
pense, autour de la religion, dans la mesure où cette religion n'est pas la religion catholique, en fait. Moi, j'arrête pas d'insister sur le fait que la France, à mon avis, est c'est une expression qu'on n'utilise pas dans le bouquin, mais la France est une république catholique. C'est-à-dire que d'être catholique ou d'être catholique non pratiquant, c'est la norme, c'est le truc normal. Et d'être musulman pratiquant, c'est le truc problématique. Mais effectivement, si on part du principe qu'il y a une liberté de culte en France, au sens de freedom of religion, d'être musulman pratiquant ne devrait pas poser de problème. Il y a toutes sortes il y a l'héritage postcolonial, effectivement, que qu'Alice mentionnait. Et puis il y a aussi le fait que, en France, le pays des Lumières, le pays de la rationalité, le pays de Descartes et tout, on a tendance à considérer que croire en Dieu relève de l'obscurantisme, en fait. Et il n'y a pas la même chose. Je sais qu'il n'y a pas la même chose au Royaume-Uni, il n'y a pas la même chose au Canada et tout. Et bon, voilà, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais ça, c'est un vrai, vrai élément, quoi, je pense.
Et la dimension coloniale est vraiment centrale parce que, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, après la Seconde Guerre mondiale, on ne peut plus être raciste comme avant, enfin, on ne peut plus être raciste en mobilisant la biologie. Il a bien fallu que les processus de racialisation, qui eux n'ont pas cessé, se trouvent une nouvelle accroche. Et ça a été tout ce qui relève du racisme culturel. Et en l'occurrence, l'islam s'y prête très bien, puisque c'est la religion des anciennes populations colonisées, comme je le disais. Donc en termes de potentiel d'altérisation, c'est vraiment, malheureusement, hein, c'est la candidate toute trouvée en tant que religion.
Ouais, alors il y a un autre truc qui est corollaire aussi, qui est important, qu'on n'a pas encore mentionné, c'est qu'en fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc comme le disait Alice, la France est très largement démonétisée dans le concert des nations, puisqu'elle a participé en fait à l'Holocauste à travers le régime de Vichy en fait. Et donc voilà, on a des travaux en sciences politiques, en histoire, qui montrent très très bien qu'en fait l'antiracisme en France à partir de 1945 va très largement, voire quasiment exclusivement, se déployer en tant que lutte contre l'antisémitisme en fait. Et ça, on le voit encore maintenant. C'est-à-dire que pour un certain nombre de personnes en France, la lutte contre l'antisémitisme, c'est presque l'horizon indépassable de la lutte contre le racisme. Quoi.
Donc avec des résultats très mitigés, en plus.
En plus, oui. Effectivement. Mais là, voilà, au Royaume-Uni, bon, même si effectivement, il y a une focale importante sur la lutte contre l'antisémitisme et tout, je vais dire qu'ils sont beaucoup plus relax par rapport à cette question-là, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas participé à la Shoah, quoi. Ils n'ont pas été envahis. Donc ils ont une approche plus pragmatique de la question de l'antiracisme. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en sortent, hein, mais ça veut dire qu'il n'y a pas... Enfin, voilà, il y a deux destins nationaux qui sont finalement très très différents, quoi.
Ouais, donc il y a peut-être aussi un petit parallèle à faire avec l'Allemagne, qui est beaucoup moins touchée actuellement par la montée de l'extrême droite, mais on la voit quand même via l'AFD, qui est anti-musulmane pour le coup. C'est-à-dire que c'est pareil, l'antisémitisme, je pense que voilà, il y a vraiment cette défense forte de la lutte contre l'antisémitisme, mais ce déplacement sur l'islamophobie.
Oui, sauf que l'islamophobie en Allemagne va plutôt toucher les populations turques, alors qu'en France, ça touche plutôt les populations issues des migrations maghrébines, et au Royaume-Uni, ça touche plutôt les populations issues du sous-continent indien.
Oui, tout à fait. Je reviens sur cette histoire de la fuite de certaines personnes de la communauté musulmane. Est-ce que vous pensez que l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, si elle s'effectue, sera de nature à accélérer ce phénomène ?
Bah, c'est vachement tôt pour pouvoir le dire, mais a priori, ça semblerait logique, ouais. Non, après, la question, c'est jusqu'à quel point ça va libérer les réflexes islamophobes, en fait. La parole islamophobe et les gestes islamophobes. Jusqu'à quel point ça va donner l'impression à des personnes dans la rue que, voilà, agresser une femme musulmane, bah, ça pose pas de problème, quoi. Et ça, je sais pas.
On va conclure cet entretien. J'avais une toute dernière question à vous poser sur peut-être vos prochains projets de recherche. Est-ce que voilà, vous avez quelques idées en tête ? Est-ce que vous êtes déjà sur des choses qui pourraient potentiellement intéresser nos auditeurs sur les questions que vous traitez ?
Bah, je sais pas, Alice, tu veux dire un peu de
bah, ah oui, non, bah, ça n'a rien à voir. Mais d'accord. En fait, juste entre nous, on se dit que peut-être dans quelques années... on reprendra cette enquête et on interrogera les personnes après quelques... Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a rencontré des personnes installées récemment à l'étranger. Beaucoup étaient installées entre 1 et 5 ans. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de les re-questionner pour savoir si... Ben, déjà, comment elles ont vécu les élections de 2022, ces élections-là, et puis peut-être le faire au moment de 2027, pour peut-être avec une focale plus en termes de politisation, sur comment, une fois à l'étranger depuis 10 ans, comment on regarde les élections françaises, surtout si l'extrême droite est encore une question centrale en 2027, et il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas, malheureusement.
Oui, alors en fait, j'avais envisagé dans un premier temps de commencer la conclusion du bouquin en évoquant l'idée de façon un petit peu comme ça, en une sorte d'accroche là, pour la conclusion, de oui, dans 10-15 ans, il faudrait faire un bouquin sur les enfants des personnes à qui on a parlé en fait. Ça aurait du sens également. Des enfants qui, pour qui la France en fait, c'est un lieu de vacances l'été, quand on est enfant en fait. Et puis, mais en même temps, c'est aussi un lieu qui, dans un certain nombre de cas, fait beaucoup souffrir les parents. Donc, le positionnement des enfants Des personnes à qui on a parlé, ouais, ça pourrait être intéressant à investiguer, quoi. Mais là, moi, je dis ça, c'est de manière très, très vague, hein.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Alice Picard, Olivier Esteves,
Bah,
tous
merci
les deux
Thomas.
auteurs avec
Merci.
Julien Talpin de ce livre intitulé La France, tu l'aimes, mais tu la quittes, sociologue. Je vous remercie, c'était vraiment très intéressant de pouvoir parler avec vous. Merci beaucoup.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens, la rédac pop de Radio Campus Orléans.